statistiquement, cette minorité est assez faible, hein, 1 à 2%. C'est avec les hindous l'autre minorité religieuse du Pakistan, donc ce pays qui est à 95 ou 96% musulmans. Mais malgré tout, voilà, sur près de 200 millions de Pakistanais, 1 à 2% de chrétiens, des catholiques et des anglicans majoritairement. Cela fait tout de même un nombre de personnes élevé. Et surtout, ce sont des personnes qui, au-delà de ce fait statistique, appartiennent à deux catégories de la population. La plus grande partie de ces chrétiens sont constitués de gens extrêmement pauvres qui vivent, qui font vraiment les métiers délaissés par tous les autres Pakistanais. Donc, ce sont des balayeurs, des vidangeurs, des égouts, des travailleurs des briqueteries, des paysans sans terre. Et à l'autre extrême, il y a une petite minorité, notamment à Karachi et dans les grandes villes, qui a pu faire son chemin dans la société et qui représente une sorte de bourgeoisie chrétienne.
La confrontation des chrétiens à la violence islamiste n'est pas un phénomène vraiment nouveau. Déjà, je crois, en 1998, un évêque s'était suicidé pour protester contre la loi sur le blasphème qui était excluante pour les chrétiens. Comment les choses ont-elles évolué depuis 20 ans? Est-ce qu'il y a tout de même, juridiquement, au sein des lois pakistanaises, des éléments de protection pour les chrétiens?
Non, les choses se sont plutôt, aggravées. Effectivement, vous faisiez allusion au suicide de Mgr John Joseph il y a près de 20 ans. L'année dernière, il y a simplement un an, donc le 15 mars 2015, un attentat à Lahore avait visé là aussi directement la communauté chrétienne, puisque des bombes avaient été placées devant deux églises chrétiennes, une catholique, l'autre anglicane, et avaient fait une vingtaine de morts et plus près de 100 blessés. Avant encore, il y avait eu à Peshawar un attentat dramatique contre une église chrétienne. Donc les chrétiens ne sont pas les seuls à être visés par les attentats au Pakistan. On se souvient qu'en décembre 2014, une école de l'armée avait été visée et 132 enfants avaient trouvé la mort. Mais donc oui, la situation sécuritaire, d'un point de vue de la sécurité, ne s'améliore pas. Les attentats se suivent et se répètent, très malheureusement. D'un point de vue juridique, elle ne s'améliore pas non plus, car ces fameuses lois anti-blasphème dont on a souvent entendu parler, hein, ces lois qui condamnent à la peine de mort toute insulte faite à Mahomet, ou la peine de la prison à vie, toute profanation du Coran, donc cet ensemble de lois, les lois anti-blasphème, loin de reculer et devenir un petit peu un tabou de la vie politique. Il y a des initiatives visant à réformer ces lois, mais ces initiatives sont quasiment toujours mort-nées, puisque la pression de la rue musulmane, ou en tout cas la pression des islamistes, est extrêmement forte sur ce terrain-là. Et ce sont des lois qui, on le sait malheureusement, sont utilisées pour régler des litiges le plus souvent personnels, mais dont les chrétiens sont plus souvent qu'à leur tour victimes.
Les mouvements talibans, les mouvements terroristes dont on parle, est-ce qu'ils sont minoritaires ou est-ce qu'ils ont une audience forte au sein de la population musulmane au Pakistan ?
C'est une question qui est compliquée électoralement. Et au fil des élections, on vote néanmoins dans ce pays. Les partis islamistes n'ont jamais véritablement percé. Donc il y a une incapacité à articuler un islam ou un islamisme politique, et peut-être peut-on dire Dieu merci de ce côté-là, mais néanmoins au quotidien, dans la rue, il y a une pression effectivement vers une islamisation toujours plus grande et un combat pas toujours très, très clair, très net effectivement des autorités de ce pays, notamment de l'armée ou des services secrets que l'on dit très souvent mêlés ou en tout cas d'avoir manipulé un certain nombre de ces factions pour des intérêts géostratégiques plus vastes et parmi ces factions, certaines lui échappent, d'où ces attentats. Maintenant, c'est très difficile de décrypter effectivement quelle est la véritable ampleur ou la popularité de ces mouvements, mais ils sont capables de mener des actions comme cela jusqu'au cœur de Lahore, et Lahore est une ville au Punjab emblématique puisque c'est la ville d'où le Premier ministre actuel est originaire, c'est son fief politique. Il y a donc là une volonté de passer un message extrêmement fort vis-à-vis des autorités, de dire que certes, l'armée et le pouvoir civil contrôlent ce pays, mais derrière, il y a des forces à l'œuvre, effectivement, qui visent à une islamisation plus grande de la société.
Les chrétiens vivent dans des sortes de ghettos, de quartiers proprement chrétiens, 100% chrétiens, ou est-ce qu'il y a encore une forme de mixité interreligieuse ?
Il y a une forme de mixité. Alors, ces quartiers, ces ghettos, qu'elle faisait allusion, ce qu'on appelle les colonies là-bas, sont effectivement liés au fait que ces populations sont parmi les plus marginalisées d'un point de vue économique et social de la société, donc il y a effectivement un phénomène de ghetto. Elles se renferment également pour se protéger, puisque un certain nombre de ces quartiers sont fermés la nuit pour empêcher toute intrusion potentiellement violente. Mais attentat après attentat, on voit la complainte des responsables de ces communautés chrétiennes, c'est-à-dire qu'ils appellent à une protection de la part des autorités, de la police, de l'armée éventuellement, et que cette protection ne vient pas, ou en tout cas n'est pas donnée d'une manière efficace. Donc il y a, et c'est terrible un petit peu à le dire, effectivement une certaine marginalisation toujours plus grande des chrétiens du fait de cette situation de sécurité, mais ailleurs également dans les grandes villes, je pense notamment à Karachi, les chrétiens vivent également d'une certaine manière normalement, encore une fois Dieu merci, leurs écoles, les institutions, les hôpitaux tenus par les chrétiens fonctionnent et accueillent indistinctement chrétiens et musulmans. Donc cette situation terrible que nous décrivions à l'instant, il ne faut pas non plus la généraliser à l'ensemble du pays.
Est-ce qu'on assiste à un phénomène d'émigration des chrétiens, comme c'est le cas au Proche-Orient? Est-ce qu'au Pakistan aussi la population se réduit compte tenu du départ peut-être des classes les plus aisées?
Oui, c'est une réalité effectivement qui il y a 20 ou 30 ans n'existait pas, mais qui existe de plus en plus. Alors effectivement, parmi cette petite fraction de la bourgeoisie chrétienne qui ont le moyen d'envoyer leurs enfants faire des études à l'étranger, eh bien souvent, fait que les enfants restent ensuite à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou au Canada, en Australie ou ailleurs. Mais ça ne concerne encore une fois qu'une toute petite fraction de cette minorité chrétienne. Et l'on constate en revanche, du côté de la majorité des chrétiens là-bas, effectivement une tendance à l'immigration et dans des conditions qui sont toujours extrêmement difficiles. On a des témoignages là qui sortent depuis quelques semaines des quelques milliers de chrétiens pakistanais qui ont trouvé refuge en Thaïlande, puisque via les systèmes des visas, c'est le seul pays où ils arrivent encore à obtenir des visas de tourisme. Et une fois qu'ils sont coincés là-bas, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés devrait les prendre en charge, mais malheureusement ne le fait pas, en tout cas ne le fait pas avec la vitesse nécessaire qui serait souhaitable. Et ils se retrouvent dans un no man's land effectivement administratif et humain extrêmement, extrêmement difficile. Donc il y a cette tendance effectivement au Pakistan à voir les minorités, dont les chrétiens, quitter le pays. Mais encore une fois, faut-il pour ces chrétiens avoir les moyens de le faire? Et peu nombreux sont parmi la communauté chrétienne ceux qui ont le moyen de le faire.